Donc, je le répète, hein.
Ce produit numérique, à notre époque, va demander une certaine méthode qui passe par la distinction entre contenu et contenant. Le contenu viendra alimenter le contenant, bien sûr, et le contenu n'a pas de limite de taille. On peut faire une base de données pour quelques individus, hein. Donc on peut faire une base. Alors, il faudra repérer quelle est la part de l'individu dans une base de données. Où est la plus petite unité statistique qu'on puisse trouver dans une base de données, sachant que nous, on sait déjà que c'est l'arbre, on a déjà discuté, que c'est pas la parcelle. On peut faire organiser parcelle et arbre de façon particulière. Ensuite, on fait pour cela une réflexion avec papier et crayon, l'étape brainstorming, l'étape qui jette les idées, l'étape meurice qui va consister à faire un premier schéma logique des données, et à la fin du LMD, le modèle logique des données, alors c'est bizarre, le premier s'appelle conceptuel et l'autre logique, et bien à la fin du LMD, vous pouvez passer en pratique, vous avez ma base, si elle s'affiche en LMD sur votre papier, vous la transformez, par exemple en Access, parce qu'on va utiliser Access, là c'est vraiment aucune difficulté, évidemment, vous n'avez pas besoin d'attendre cette phase-là pour passer à Access. Dès la première table réalisée, vous pouvez commencer à rentrer les choses en Access structurée. Bon, alors voilà, donc ça c'est dit, on y va. Donc c'est une sorte de gros atelier, hein. Donc, il faut d'abord définir les objectifs de la base de données à réaliser. Ça a l'air idiot. Ça a l'air idiot, mais vous ne pouvez pas construire une base de données concernant des entités particulières, comme par exemple les arbres, sur deux objectifs différents de la même façon. Vous avez forcément des objectifs à honorer pour pouvoir réaliser la base de données qui va correspondre justement à ces objectifs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une version de base de données sur le thème gestion d'arbres sur parcelles, dans laquelle vont cohabiter, eh ben, il faut penser à tout, des informations scientifiques, des informations sûrement juridiques et des informations d'ordre économique. Donc, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est de sélectionner les informations incluses dans la version de démarrage, donc après l'étape bouillon, on va dire, et puis on va essayer de trouver un nom pour la base. C'est idiot, hein, mais c'est important. Rassembler les informations en catégories, en familles, d'accord. Et puis, on va essayer de commencer l'apprentissage Access, c'est-à-dire au fur et à mesure où on progresse dans cette base de données. C'est pour ça que je n'ai pas voulu tout en profil, hein. On essaiera de voir les choses. Et je vous le dis tout de suite, j'ai un exemple type qui ne reprend pas la formule des armes qui gèrent un fichier de notes, hein, aux examens, qui est entièrement filmé et vous pouvez suivre step by step, qui vous redonnera exactement la même méthodologie avec le même discours à peu près, et ceci dans un format limité en temps, puisque mes vidéos ont pour but d'être performantes en temps. Parce qu'on ne peut pas toujours être quand on donne un cours. Hein. Donc, il y a un cahier des charges, c'est vrai, pour réaliser une base de données. Je vous le fais voir comme ça, parce que, oui, c'est intéressant de toujours travailler dans l'esprit d'organiser son travail, d'accord. Alors, on commence à définir le but du travail, ce qu'on va faire, ce qu'on a commencé à faire, donc on va préciser, le brainstorming, la conception du schéma structural, réaliser la base de données, et obtenir une première version fonctionnelle. Ça a l'air de rien, mais ça va merder au départ. Parce que vous allez voir que les relations sont plus ou moins laxiste, et donc il faudra les dire, attention là, tu ne peux pas avoir deux arbres qui sont les mêmes, l'un en bonne santé, l'autre en mauvaise santé. Donc il va falloir quand même demander à la base de données de faire des vérifications, ou d'empêcher des choses qui sont incohérentes, ce qu'on va appeler des doublons, par exemple, mais pas que. Et puis on va réaliser un premier interfaçage, alors là j'ai complètement filmé l'interfaçage de la base sur les arbres, donc vous pouvez reprendre tout, et vous n'avez pas besoin, alors là on ne va pas faire un cours là-dessus, les vidéos sont complètes. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau, l'interfaçage, c'est pour simplement que ça fasse quelque chose d'assez agréable à voir, à utiliser, et qui soit sous la forme d'interface hypertexte, d'accord. Un petit peu comme un site web, un petit peu, pas tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup plus performant qu'Access, c'est PHP MySQL qui est très 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 utilisé. Là, ça demande une programmation en PHP pour interfacer la base, pour ouvrir, la connecter, sur la connexion avec un password, une priorité et tout. Réservons ça aux plus passionnés. Donc j'ai commencé à faire sur mon site web un point qui s'appelle une base sur le web, je crois, où j'ai mis les premiers fichiers qui permettent de concevoir une base en PHP-MySQL. Franchement, c'est pas fait pour l'essentiel de la classe, c'est pour les plus passionnés, ceux que ça intéresse. Et après, ils n'ont plus besoin de moi, ils vont sur Internet, ils se complètent, il y a des tas de formations en PHP-MySQL qui sont formidables, et en une heure, on peut progresser. On ne sait pas quoi faire un dimanche après-midi, je plaisante. On vient avec sa tablette et on est au bord d'un étang, on pêche et puis en même temps on regarde ça. Quoi. Je plaisante. Ensuite, eh ben, il faut tester la base. Et ensuite, eh ben, il faut l'exploiter. Hein, c'est-à-dire, on va extraire une base pour une base, il faut écrire des requêtes, extraire de l'information, trouver des règles, faire en sorte que cette information soit vivante. Parce qu'une base de données qui meurt, c'est fini quoi. Donc une base de données, ça doit exister. Alors reprenons notre chose. Hein. La thématique, c'est la gestion d'arbres sur parcelles. Donc là, il faut bien, en tant qu'ingénieur, en tant que biologiste, en tant que chercheur, mettre ça sur son cahier d'exploitation ou son cahier de suivi. Voilà, je réalise une base de données qui a pour but de temps, et la thématique, c'est ça. D'accord ? Le but, très important, c'est faire un état des lieux le plus fiable et le plus complet possible. L'absolu n'est jamais une nécessité. Pour rassembler les informations qui concernent ces arbres. Alors, localement, plus que localement, on verra hein, ça. Donc, on va faire peut-être des enquêtes, des infos, on va peut-être avoir des infos qui vont être en temps réel, qui vont être rassemblées par des objets connectés, qui vont être rassemblées par des drones, qui vont être rassemblées par des humains. Bref, on rassemble ces informations. Et ce qu'on veut, c'est apporter des solutions, alors des solutions déjà techniques, hein, pour entretenir les arbres, mais vous savez que cet entretien nécessite d'être en connivence à la fois avec le monde juridique. On n'entretient pas les arbres n'importe comment. Il y a des cahiers des charges, il y a de la gestion environnementale, il y a des réglementations qui sont de plus en plus sévères, et puis une connivence avec le monde économique, parce qu'il va bien falloir financer le suivi d'entretien des arbres. Quand vous avez une parcelle qui fait plusieurs millions d'arbres, plusieurs dizaines de millions d'arbres, et puis que vous avez un million d'arbres qui comme de par terre parce qu'il y a une tempête, c'est pas gratuit, ça coûte, hein, et ça prend plusieurs années. C'est par exemple ce qui s'est passé à Versailles, si on parle du château. On parle de millions d'arbres qui sont tombés par terre, en 99 fois. Alors définir le but du travail, eh bien, on va se dire, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Il veut me faire une usine à gaz qui apporte des solutions techniques, comme ça va, je suis scientifique, je maîtrise. Après, il faut aussi que ça soit en corrélation avec le monde économique et juridique. Mais attends, là, je ne connais rien en là-dedans. C'est peut-être one step too much. C'est-à-dire, on est allé trop loin dans l'ambition de la base. Ce n'est pas notre métier. Donc, on va revenir à quelque chose qu'on peut réaliser nous-mêmes ou que notre équipe peut réaliser. Et on ne va pas commencer à parler une langue étrangère avec les juristes. Vous voulez parler avec des juristes, c'est une autre langue. Et avec des économistes qui sont aussi sur un autre tableau et qui se foutent parfois complètement de l'aspect écologique. Pas tous, mais beaucoup. Donc on revient, on se remet les pieds sur terre et on se dit, voilà, mon objectif va être le suivant. J'écris une belle phrase. Le but de ce travail va consister à élaborer une base de données qui va rassembler des informations concernant les propriétés et la santé des arbres qui sont répartis dans des parcelles. L'échelle sera à définir, j'en ai parlé, et faciliter leur gestion, leur suivi et leur entretien. Bon, ben voilà un objectif vaste, mais qui est dans nos cordes. Alors, il faudra savoir qu'est-ce qu'on entend par suivi hein, dans cette base de données. Est-ce qu'on peut le définir tout de suite? Pas évident. Donc, dans la conception, ça va peut-être être un mot qui va être difficile à gérer dans notre phase initiale. Cette base de données doit absolument être utilisée, ou en tout cas utilisable. Ou plutôt, elle doit être utilisée et utilisable. Donc il y aura peut-être un effort de ce qu'on appelle l'ergonomie du logiciel, c'est-à-dire de l'interfaçage à réaliser pour qu'un quidam puisse rentrer de nouvelles données alors qu'il est à l'autre bout du pays ou dans un autre pays européen, ou encore dans un autre pays, point final, ou une autre zone. Et en même temps qu'on réalise cette base de données, eh ben on va réfléchir à ce qu'on pourrait en extraire. Donc, on va penser aussi à l'extraction, c'est-à-dire on va réfléchir aux requêtes en même temps qu'on la réalise. Et c'est là le beau du travail, c'est-à-dire que tout ceci se tient. C'est pas seulement faire une collection, hein, puisque vous savez que les bases de données, je vous l'ai dit dans les premières journées, c'est une collection d'informations structurées, non nécessairement du même type, hein, mais c'est faire quelque chose d'utile. Hein, l'utilisation, elle est là. Moi, j'aime bien qu'on travaille, dans votre projet, ce sera pareil, dans l'esprit d'une start-up. Alors, on n'est pas dans la start-up nation, ne vous inquiétez pas, je ne défends pas ce principe. Mais ça me ferait plaisir que vous conceviez que vos projets sont dans cette mouvance et que vous les conceviez dans le cadre d'une création fictive d'entreprise. Alors, je ne parle pas de start-up, même si ça pourra aller dans mon vocabulaire, hein. Fictive d'entreprise, unipersonnelle déjà. Hein. Et l'idée, c'est que l'entreprise développe des produits, dont eh ben, des produits algorithmiques, des produits bases de données, des produits qui sont le résultat d'une analyse statistique, donc une réflexion intellectuelle. Et tout ça se monnaie. Et ça se monnaie beaucoup plus que si vous êtes salarié dans votre premier embauche. Alors, la base, on pourrait l'appeler tout simplement arbre, pour faire un truc court, ou suivi des arbres, ou trees, ce que vous voulez. On lui donne un petit nom, hein, d'accord? Et on verra, on réfléchira ensemble au nom de la start-up au gré de notre avancée. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est dans votre projet de faire du copier-coller de cette phrase. Et vous l'agrémentez en fonction de la nature de votre projet. Hein. Ça commencera toujours pareil. Le but de ce travail va consister à élaborer une base de données qui va rassembler des informations concernant. Tac, 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 ça veut changer, d'accord? Et qui va faciliter leur gestion. Après, suivi entretien, ce sera peut-être d'autres mots-clés que vous trouverez, d'accord? Donc vous la copiez et vous la collez dans votre projet. Comme ça, au moins, c'est propre. Je vous apprends à communiquer, d'accord? La première communication, c'est communiquer d'abord sur le but du travail qu'on réalise. Alors, c'est très simple. On prend une feuille de papier en général. Et on peut réunir les idées sur la thématique. Alors, comme j'ai dit que j'allais faire un atelier, si on jouait le jeu là, en 2 minutes, vous prenez une feuille de papier, un quart, un sixième, un huitième, et vous dites quel mot-clé je vais mettre sur cette thématique, hein, parce que cette feuille de papier, je vais mettre des mots-clés. Et on va se poser la question qui, où, quand, quoi, comment. Et là, vous allez voir que tous les mots-clés vont retrouver. Normalement, vont s'insérer dans la base de données. Il n'y a pas d'inutile. Allez-y, faites-le. Et dans la diapositive suivante, on va voir ce que je vous propose. On va comparer comme ça. Un peu. Qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi. N'oubliez pas que ça devrait vous servir pour trouver des idées pour votre projet, hein, cette méthodologie. Qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi. Des mots-clés, des mots. Un mot, c'est pas une phrase, hein. Donc, réunir les idées sur la thématique. La thématique, c'est la fameuse. Le but de ce travail va consister à élaborer une base de données qui va rassembler des informations concernant les propriétés et la santé des arbres répartis dans des parcelles et faciliter leur gestion, leur suivi et leur entretien. Donc, gestion, suivi et entretien. C'est des choses qui se ressemblent, mais qui seront peut-être à séparer dans la base de données pour justement arriver à quelque chose de performant. La base de données servira aussi bien à des analyses statistiques, des modélisations, qu'à des résultats bruts, qu'à des programmes de machine learning. Dans tout projet de base de données, les premiers mots-clés concernent ceux qui sont dans la rubrique but du travail. Donc là, ici, on voit. Rassembler des informations concernant les propriétés santé des arbres répartis en parcelles. Et donc, on a effectivement gestion, suivi, entretien qui vont être des choses aussi à considérer. On ne sait pas comment, d'accord? On y va? Et on compare avec ce que vous avez trouvé, pour ceux qui sont rapides. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment réaliser le brouillon en répondant à ces qui, où, quand, quoi, comment, combien, pourquoi. Combien c'est important aussi, pas seulement d'un point de vue décompte, mais aussi peut-être financier, parce que tout ça va coûter. J'ai pas dit que ça allait être une base
qui va nous rapporter forcément de l'argent à chaque arbre qu'on traite. Mais ça va déjà coûter pour entretenir l'arbre. Et il faut savoir si on a les moyens. Et à qui on va demander de faire cette... Il ne faut pas que ça soit du rêve, une base de données. Bien. Donc, le but, c'est de raconter une histoire. Donc, on commence à élaborer cette histoire avec les trois dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, j'espère que c'est assez gros, hein, que vous voyez. C'est-à-dire arbre, essence, parcelle. On a vu la différence entre arbre et essence. Arbre, c'est mon individu. Oui, c'est la plus petite unité statistique. C'est-à-dire que parcelle ne pourra pas être au centre de ma base de données. Mais c'est arbre, tel que je l'ai conçu moi. Okay, c'est-à-dire que il va falloir faire un petit schéma. Alors, je ne sais pas si le blanc se voit bien. Donc, on met une parcelle. Deux parcelles, elles ne sont pas forcément jolies mes parcelles, hein. Elles peuvent être complètement complémentaires. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai une zone qui contient, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, qui contient des parcelles. Chacune des parcelles va contenir un arbre. Je mets en vert, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais je symbolise ça, mais il y en a beaucoup plus que ça, bien sûr. On a des milliers, donc chaque parcelle. On a fait notre petit crobar, on sait à peu près où on est. Du coup, ce petit crobar, il n'est pas inutile parce qu'il va nous permettre de construire la base de données. On sait qu'il y a dans la hiérarchie zone, parcelle et arbre. Bien sûr. Les arbres ont des propriétés, on est d'accord? N'hésitez pas à faire des schémas hein, dans vos trucs. Hein. Je m'intéresse à la pollution d'une rivière. Bon, bah, j'y vais. Hein. Je dessine ma rivière. Il y a peut-être une usine de traitement des eaux, une usine qui pollue ici. Là, il y a peut-être, je sais pas moi, une zone à protéger. Voilà, je dessine. Et je construire une base de données en fonction de ma visualisation des choses. Donc évidemment, ça ne va pas suffire. Hein. Vous commencez à dire, tiens, si je parlais aussi de la hauteur, hein, si je parlais aussi de l'état, de la zone, tiens, hein, j'ai fait un schéma, d'accord? Donc il y a des propriétés sur les arbres, il y a des propriétés sur les parcelles qui vont... voilà, la date de l'observation, c'est important. On a bien vu que ça manquait hein, dans notre fichier Excel. L'entretien, quel type d'entretien, le rapport sur les arbres, un observateur, l'historique de l'entretien, la procédure, la méthode, et on continue. On continue comme ça, on voit qu'il y a peut-être, par exemple, les missions assignées à l'observateur, le pH, le type du sol, l'environnement, la pollution, le taux d'humidité, tout ça c'est sous-jacent au petit schéma là. On peut rajouter ces mots-clés là comme ça. Donc, effectivement, on peut aussi, je vais prendre du jaune, c'est plus résolutif, je pense. On peut aussi se dire que le but, c'est le suivi. Donc, on peut faire un mind map, vous voyez. Ce suivi va concerner des arbres qui sont répartis en parcelles, elles-mêmes dans des zones. D'accord ? Et ce suivi va être réalisé par des observateurs, voilà, qui vont évidemment avoir des interactions sur tout cet ensemble. Oui, un petit mind map, on peut mettre d'autres choses, hein, d'autres vues. Ouais, toute cette relation, on doit la retrouver dans la base de données, d'accord? Pour l'instant, on ne sait pas quoi faire de suivi, parce que c'est assez compliqué. Alors voilà comment on va faire. On va repérer les familles d'informations. Ces familles d'informations, je les ai mis en rouge. Je vous rappelle que vous avez tous ces transparents sur le site, donc j'aimerais bien que voir ensemble comment on est arrivé à tout ça. Arbre, c'est une famille. Parcelle aussi. Ce qu'il faut que vous compreniez, ce sont des familles indépendantes. Comme prof, étudiant, on peut parler aussi, c'est mon cas. Mais, parce que j'étudie des choses. Mais, en général, dans la fac ou en scène, il est soit prof, soit étudiant. D'accord? Donc, c'est deux mondes différents. Voilà. Donc, chacun a ses propriétés. Arbre, c'est le propriétaire. Parcelle, des propriétés de parcelle. Suivi, c'est une catégorie aussi, une famille. Parce qu'on va voir qu'il y a tout un tas de paramètres qui vont nous renseigner sur le suivi des arbres. Par exemple, l'état de santé à telle date, l'état de santé à telle autre date. Par exemple, qu'est-ce que j'ai
fait la gage, etc. Donc ça veut dire que le suivi et peut-être le résultat va amener un certain entretien aussi. Donc entretien aussi est une famille, indépendante du suivi, parce qu'on peut faire des entretiens hormis le suivi. L'observateur aussi, ça n'a rien à voir avec des arbres. Donc on repère comme ça toutes les familles parmi les autres informations qui ne sont que des attributs, des propriétés de chacune de ces familles. Exemple, hauteur, état sont des attributs de l'arbre. Autre exemple, date de plantation. C'est peut-être un attribut de l'arbre et on va voir si on le met quelque part, soit dans le suivi, soit dans l'arbre, parce qu'une fois qu'il est planté, il est planté. Donc c'est peut-être comme une date de naissance. Okay. Donc, quoi encore date d'observation, bah, c'est plus une propriété de l'arbre. C'est une propriété du suivi, ça. Parce qu'en fait, on va observer plusieurs fois l'arbre dans sa vie, et pas cinq fois. Donc on va le considérer comme une propriété, c'est juste une conséquence de sa vie. Un peu comme une visite chez le médecin. Une visite chez le médecin, c'est pour vous. D'accord, on vous a suivi. C'est tout. Entreprise, ben, il va y avoir l'équipe, les techniques qu'elle utilise, qu'est-ce qu'on pourrait, l'adresse, etc. L'adresse qui va se retrouver aussi pour la parcelle ou pour la zone, où est-ce qu'elle est, le GPS, les coordonnées XY, ou GPS latitude et longitude, le climat qui va être plutôt une propriété de la zone ou une propriété de la parcelle, si elle est suffisamment grande. On peut avoir des parcelles qui font plusieurs centaines de kilomètres carrés, pourquoi pas, hein, c'est pas interdit. Bon, donc vous voyez que chaque élément en bleu, c'est plutôt des attributs de ces familles, il va falloir encaser tout ça, et j'ai fait mon brouillon. Alors maintenant, la règle numéro 2, c'est qu'une fois que je suis content de mon brouillon, et là on peut en être content, c'est déjà bien. Ce que je vous demande pour un projet, pour ceux qui développeront l'aspect base de données, c'est pas tout le monde, je vous l'ai dit, eh bien c'est peut-être de s'intéresser à développer, vous voyez, une liste d'une trentaine de mots-clés, ça suffit pour construire votre base de données. Vous rendez compte, vous avez construit une base de données qui revient de rien. C'est-à-dire que vous la concevez de rien, vous partez de rien. C'est génial. Bien, et après, elle va avoir une longue, longue, longue existence. Une demi-journée de travail, une journée de travail, et peut-être plusieurs années d'exploitation, et peut-être la célébrité pour vous, parce que vous avez permis de faire une avancée dans la gestion des informations en santé ou en environnement. Il y en a d'autres, vous voyez, profondeur des racines, intensité de la pollution, activité, impact, information, bon bref, c'est du brouillon, et on organise. Alors, on va éclater l'information. Vous voyez, ça c'est réuni, maintenant on l'éclate. Alors, on va éclater comment? Bon, en réunissant ce qui peut être réuni, et en laissant de côté tout ce qui va être étranger à l'un ou l'autre, dans un premier temps. Donc, cette modélisation qu'on va faire est un aspect fondamental puisque c'est à partir de cette étape qu'on pourra dire qu'on réalise la base de données. Donc, éclater l'information, ça veut dire qu'on avance étape par étape, qu'on rassemble ce qui peut l'être en famille, ce qu'on appelle des entités, modèle entité-relation. Donc, on travaille sur le modèle entité-relation. Bon, vous voyez, j'ai dessiné ici des premières relations. Ok. On va retrouver ça dans une logique qui nous paraîtra évidente, quoi. Et puis, on va éventuellement mettre en index tout ce qu'on ne sait pas gérer. Vous allez voir qu'il y en a déjà d'une qu'on ne sait pas du tout gérer. On y va. Donc ça, vous lirez, c'est du blabla de Meurice, hein. C'est qu'est-ce que c'est qu'une entité, qu'est-ce que c'est qu'un attribut, qu'est-ce que c'est qu'un identifiant. Au gré de l'avancée du travail, on utilisera ce vocabulaire et vous avez cette fiche qui pourra vous en rappeler. Alors voilà, on avance enfin. Donc, on va créer une première entité arbre. On va y mettre quelques informations minimales, hein, pas toutes, hein, juste pour dire voilà, on va représenter ça par un rectangle. Et on va mettre une étiquette au-dessus. C'est la méthode Meurice. C'est génial parce que là, voilà, j'ai l'entité A qui peut recomplir des millions d'arbres qui est structurée comme ça. Je la résume par son contenant. Ce n'est pas le contenu, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'elle va contenir? Eh bien, cette entité va contenir tout ce qui concerne l'individu A. Pour l'instant, la parcelle n'en fait pas trop partie, on ne sait pas trop. On a mis un code parcelle parce qu'il faut bien dire qu'il existe, hein, dans une parcelle. Mais c'est encore du flou. Donc j'ai mis l'ID. Ah, ben on a vu, hein. On repère un individu par des codes. Dans les bases de données, tout est géré par des codes. C'est ce qui est le plus facile. Donc on va faire un identificateur à notre sauce, c'est-à-dire ce que je vous ai appris, c'est de l'alphanumérique, combinaison de caractères et de chiffres. D'accord ? Et puis, on va mettre l'essence, qui correspond à cet arbre, à ces arbres, hein. Et si éventuellement il est dans une forêt particulière, elle-même repérée par des parcelles. Mais pour l'instant, voilà. Et on ne va pas mettre les propriétés de la parcelle, on va simplement dire dans quelle parcelle il est, ok ? C'est déjà pas mal, hein ? Autrement dit, c'est comme mon adresse. Mais je peux changer d'adresse et lui aussi, on peut le déraciner et le mettre ailleurs. C'est une propriété d'un arbre, ce qui sera peut-être beaucoup plus difficile avec un minéral, par exemple un rocher ou une montagne, n'est-ce pas ? Bien, donc la convention, et c'est bien une convention, c'est je représente par un rectangle avec une étiquette portant son identificateur, une étiquette très simple. L'entité, c'est la famille, c'est le regroupement d'informations concernant eh bien, le type d'information qui m'intéresse. En l'occurrence, ici, arbre. Bon, on évite les accents, pourquoi ? Parce que ce sont des identificateurs, et je vous l'ai dit, nous, les latins, on n'existe pas dans le monde. Seulement, alors je dis les latins, les gens parlent français, parlent une langue latine, mais donc les Américains ont retenu comme la base tout ce qui est latin non accentué. Toutes les lettres latines non accentuées. Donc tout identificateur avec des accents, ça portera des conséquences sur les transcriptions, la compatibilité entre, je ne sais pas, le monde Mac et le monde PC, ou voilà, les systèmes d'exploitation, les logiciels utilisés. Donc voilà, je fais des fautes d'accent exprès. C'est-à-dire que dorénavant, vous allez voir, par exemple, forêt s'écrit F-O-R-E-T. Il n'y a pas d'accent. D'accord ? État, E-T-A-T. Il n'y a pas d'accent. Par contre, le contenu a le droit à un accent. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous l'avais déjà dit, ça. Pareil que pour les règles pour Excel. Bon, la deuxième entité, on en a parlé, c'est parcelle. Allez, vas-y. Je te lui donne son identifiant, qui ne sera pas le même qu'un arbre, ID parcelle. Vous avez vu que j'ai mis ça en vert, donc ça va avoir un rôle particulier. Vous l'imaginez, l'identifiant va avoir un rôle central dans une base de données. La zone dans laquelle se trouve, le programme biologique à laquelle elle correspond, et éventuellement le responsable de la parcelle. J'invente. Peut-être que c'est déjà très performant comme ça, et peut-être qu'il y aura d'autres choses. Vous voyez, je mets 3-4 informations, il y en aura plus dans la base de données. L'entretien. Eh bien, l'entretien, bon là, on n'a plus besoin d'un code particulier, on peut parler d'un mot-clé qui pourrait dire, par exemple, élagage, désinsectisation, voilà, par exemple, des choses comme ça. Et on décrit, eh bien, la méthode, l'équipe, bon, j'ai mis team, bon d'accord, l'équipe, la procédure, toujours avec les fautes associées aux accents qui ne sont volontairement pas mis dans les identifiants. Alors, c'est des champs. Hein. Vous avez vu, on a reconnu un enregistrement, hein, que ce soit ici, ID arbre, point virgule, essence, point virgule, code parcelle, forêt, état. Et vous voyez qu'au lieu de les mettre en ligne, comme identifiant de colonne, je les mets en... au lieu de les mettre en colonne comme identifiant, je les mets en ligne. Comme ça, je peux en mettre autant que je veux sans avoir un truc qui change de largeur. Okay. C'est une convention. Donc, il faut voir que dans la structure des tables, ce qui était en colonne dans Excel se retrouve en ligne dans les tables ou les entités. Voilà. Donc, je continue. J'ai donc parcelle, entretien. J'ai fait la même chose pour observateur, nom, statut, mission, affiliation. On verra ça au fur et à mesure, si c'est pertinent, s'il en faut plus, s'il en faut moins. En tout cas, observateur, c'est pas du tout arbre. C'est pas du tout entretien. Et c'est pas du tout parcelle. Donc c'est vraiment utile de le mettre en famille. Bon, tous ces éléments, puisque je dis ils sont pas, sont indépendants. Indépendants. On ne peut pas être arbre, parcelle, entretien et observateur. Il faut faire son choix. Suivi, c'est bien emmerdant. Parce que le suivi est demandé par un observateur ou un ingénieur ou un manipulateur ou ce que vous voulez. Il concerne un arbre, mais aussi une parcelle, hein, puisque l'arbre est sur une parcelle, et il peut être le résultat, il peut demander le résultat en résultat, un entretien. Suite au suivi, on s'aperçoit que en faisant le bilan de la santé de l'arbre, il nécessite par exemple un élagage, ben, c'est plus indépendant. C'est plus indépendant. Il dépend de toutes les autres. Ah, du coup, suivi va avoir un rôle central. Suivi va avoir un rôle central. Ça nous embête bien parce qu'on ne sait pas comment le construire pour l'instant. Nous, on a dit, on fait le bilan des choses indépendantes. Bon, très bien. Alors, on va voir comment on va gérer ça grâce à un tableau de phrases. Donc, comme je vous l'ai dit, suivi va venir, en toute logique, s'insérer dans cet ensemble par les relations qu'on va mettre en place. Pas d'affolement, ça va être naturel. Ça va être naturel parce que les mots-clés sont là. On a défini suivi d'une certaine façon. Bien, alors on y va. Comme une base de données va relater d'un contexte, eh ben, c'est comme si elle racontait une histoire. Donc ce qu'on va faire, c'est raconter cette histoire. Pour raconter une histoire, on va trouver une phrase simple avec sujet, verbe, complément, qui décrit le contexte associé à la création de cette base ou à la mise en place de ces entités dans la base de données. C'est très simple. On va travailler par bloc et on va faire une phrase, une première phrase qui va rendre compte de ce qu'on s'aperçoit là, ici. On a arbre, parcelle, entretien, observateur. Est-ce qu'on pourrait faire une première phrase? Tiens, entre arbre et parcelle. Un verbe simple. Donc on a besoin d'un sujet, d'un verbe, d'un complément. Alors les sujets, ça peut être arbre. Et le complément, parcelle, et vice-versa. Le verbe, ce serait quoi? Ouais, se trouver. Ou une parcelle contient. D'accord? Alors, on regarde ce qui a été proposé. Partie 1, la parcelle abrite, contient, inclut un arbre ou un arbre. Ben, on va dans l'autre sens. Est abrité, est contenu ou est inclus dans la parcelle. Donc, actif. Passif, dans le sens. On reste des phrases, on raconte une histoire. Bon, vous dites où il veut en venir. Ben vous allez voir. L'observateur peut observer, surveiller les arbres. Donc on voit qu'il y a deux entités qui vont être mises en relation. Hein. Je vous dis tout de suite, grâce à ces verbes écrits en vert, vous avez vu les index qui sont en vert, hein. On va pouvoir concevoir la base de données. Allez, on continue. Eh bien, je peux mettre l'entretien est proposé ou préconisé pour un certain arbre. Je peux faire aussi l'entreprise effectue cet entretien, c'est-à-dire qu'un entretien est effectué par l'entreprise. Et puis, je peux dire qu'une équipe technique, hein, qui appartient à l'entreprise, hein, intervient sur un arbre. Voilà que l'histoire commence à prendre de l'ampleur. Et si je fais le bilan de toutes les entités que j'ai numérotées, là, j'ai tout appelé, pratiquement tout appelé. S'il en manque une, mais j'en ai même plus. Parce que grâce à mes phrases, je viens d'inventer deux choses. L'équipe technique et l'entreprise que je n'avais pas vraiment pris en compte dans mon premier bilan. Je n'ai pas dans le premier brouillon l'obligation de tout mettre. C'est juste une rampe de lancement. Et dans cette rampe de lancement, je vois que je fais avancer ma fusée au fur et à mesure grâce aux idées qui me viennent en place. Bon, alors comment ça va se passer cette histoire? Eh bien, on reprend les éléments de phrase et on va faire une très grande phrase. Par exemple, une phrase avec deux verbes. Par exemple, et on symbolise l'amorce de la base de données avec cette très grande phrase. Cette très grande phrase, c'est tout bêtement, alors elle n'est pas immense non plus, hein. L'arbre bidule, je prends un exemple, vous voyez, je le mets en bleu. Hein. L'arbre, c'est la famille, parcelle la famille, l'observateur la famille, et je précise quel individu dans cette famille je vais prendre pour faire cette phrase. Donc je prends un individu au hasard, bidule, une parcelle au hasard, truc, et je prends un observateur au hasard, machin. Et je peux écrire la phrase suivante. L'arbre bidule qui est abrité dans la parcelle truc est surveillé par l'observateur machin. Vous avez fait 40% de la base de données. 40% de votre base de données comme ça. Réfléchissez à votre projet comme ça. Je ne vous demande pas d'arriver jusqu'à la base de données complète, mais au moins sur le tableau des phrases. Ça serait merveilleux que tout le monde le fasse. Après, si quelqu'un peut aller jusqu'à la structure que je vais présenter, d'autres groupes, ça serait super. Et il y en a quelques-uns, peut-être 1, 2, 3 groupes qui qui vont réussir à faire leur base de données complète, au moins en structure, dans Access, qui contiendra quelques enregistrements inventés. Vous inventerez. Par exemple, si vous faites une étude sur les dauphins, ils ne vont pas faire 750 mètres de long. Donc il y aura des limites pour décrire la longueur d'un dauphin. Ils ne vont pas avoir les yeux rouges. Voilà, des choses comme ça. Quoi. Je pense que les dauphins n'ont pas les yeux rouges. Et ils ne vont pas siffler. Même si ça ressemble peut-être à des sifflements. Ça s'appelle autrement. Ça peut être des... Ils vont faire des clics, notamment.
Bon, ben voilà, j'ai fait mon tableau. Maintenant, je fais mes phrases. J'oublie mon tableau. Et je repère que, eh bien, ici, les groupes verbaux sont les futures relations. Alors ça, c'est génial parce que je vais reprendre mon schéma. Et hop là, on va passer du brainstorming au MCD, modèle conceptuel des données. Donc, je reprends ma phrase, hein, hop, j'y vais, je mets mes trois entités avec leurs petites informations, et pof, je dessine mes premières relations. Tac. Donc, pour dessiner mes premières relations, il faut que je fasse la part du contenant-contenu. Vous avez vu un contenant, alors je vous ai fait une image du contenant Access. Imaginez que chaque table correspond à une feuille de calcul, ok ? Pour donner un petit aspect des choses. Voilà. Donc là, dans Excel, gérer des feuilles de calcul entre elles, c'est possible, mais il n'y a pas de relation évidente à construire. C'est tout un pataquès, c'est un autre monde. Ce n'est pas fait pour ça. Par contre, Access, lui, il est fait pour ça. Donc vous voyez, par exemple, quand j'ai ID parcel, ben, la parcelle 0022, elle n'est pas répétée deux fois. La parcelle 0,95 non plus, 133 non plus. Elle est dans la même zone, 1, 1, 1. Le problème, c'est BR2 ou BR3, on verra ce que c'est. L'arbre. J'ai l'arbre numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais l'appeler autrement, hein, d'accord ? Et là, j'ai leur essence respective. Et même si j'ai deux fois le boulot, on voit bien que le 2 n'est pas le même arbre que le 4. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été plantés à la même date. Alors, peut-être que plus loin, il y a la parcelle où ils sont, mais pour l'instant, je me suis contenté de mettre des choses élémentaires. J'ai oublié la parcelle dans l'arbre, d'accord ? Donc, j'ai mis ID parcelle, zone programme, ID arbre, essence, date de plantation, et j'y vais. C'est tout.
Je projette le verbe arrêter et je projette le verbe surveiller. Je trace un temps qui contient ces étiquettes et je relie les deux tables qui sont concernées par le groupe verbal entre elles grâce à ce petit schéma. Ou non ? Là, vous avez fait 50% du travail. C'est pour vous dire, hein, votre projet peut aller vite. Et en général, quand on a un projet, on commence toujours par la base de données qui va contenir une information pour pouvoir l'exploiter. Donc là, vous voyez que ça a une autre gueule que le fichier Excel. C'est très performant déjà. Mais c'est pas fini, vous allez voir. C'est que le début.
Alors, comme je vois que vous êtes très réactif, je ne vais pas vous faire patienter trop. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va regarder comment on peut rendre l'information unique. Boulot, ça ne va pas aller. Il y en a plusieurs. La parcelle non plus, parce que là, on peut se trouver plusieurs arbres. La même parcelle. À hauteur non plus, c'est idiot. Même si vous allez me dire que bah, des propriétés qui ne sont pas nominales, comme notre iris, peut servir d'identifiant. Hein. On code, bon, ça devient un identifiant pour les passeports, pour tout un tas de choses. On reconnaît l'iris et on sait que c'est encore plus performant que les empreintes digitales qui le sont déjà. Mais il paraît qu'on peut trafiquer les empreintes. Maintenant, un iris, pour l'instant, on ne sait pas trop le faire. Donc, en gros, on va servir de code. Et c'est bien les identifiants, ça s'appelle des identifiants, que j'avais mis en vert, qui vont être le code unique. C'est-à-dire le numéro de l'arbre, le code de la parcelle, vont être des identifiants uniques qui vont faire que ben, on ne peut pas confondre une parcelle avec l'une, avec l'autre. On ne peut pas confondre un arbre avec l'autre. D'accord ? Du coup, génial. Je ne m'en sers pas encore dans la partie conceptuelle, puisque là, j'ai pratiquement fini la partie conceptuelle, mais je vais me dire, maintenant je vais travailler ce qu'on appelle les cardinalités. Combien d'arbres vont pouvoir se trouver dans une parcelle ? Un arbre ou plusieurs ? Et combien de parcelles pour un seul arbre ? En fait, en gros, on va poser des hypothèses qui vont nous mettre sur la voie du type de relation qu'on va réaliser. Ces hypothèses sont très simples. C'est 1. Un arbre est abrité dans une parcelle. 2. Une parcelle abrite plusieurs arbres. Et 3. Un observateur observe plusieurs arbres et le même arbre peut être observé par plusieurs observateurs à des dates différentes ou même à la même date. Ils ne se sont pas concertés, ils font un travail en double, un petit peu comme les doubles corrections dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on y va tout doucement et on va rajouter des cardinalités. Alors ça c'est un petit peu coton, je laisse ça à des spécialistes. Vous pouvez passer à l'étape suivante si jamais ça vous embête. Alors on lit ça comment ? À gauche. On sort de parcelle et on lit une parcelle, une, peut contenir, là vous voyez, 1 à n arbres. N ça veut dire plusieurs au modèle conceptuel. Donc une parcelle, identifiée comme ça, peut contenir, hop, j'y vais ici, 1 à plusieurs arbres. Dans l'autre sens, je sors de arbre et je lis 1. Un arbre est abrité par une et une seule parcelle. Pas par zéro, j'aurais pu mettre zéro, hein. C'est-à-dire que l'arbre, il est encore dans son pot. Ça, c'est autorisé. Mais dans le schéma, ça ne va pas se voir beaucoup. C'est dans le codage. On mettra, dans ce cas-là, une parcelle 0. En attente, ça s'appellera pot. D'accord ? Ah oui, on s'adapte. Vous allez voir que la logique, le bon sens, fait qu'on peut trouver une solution à tout. Parce qu'on est biologiste, on est des expérimentateurs, on a un sens pratique des choses. Donc, on sait de quoi on parle. Du coup, on va regarder de l'autre côté ce que ça va nous donner. Alors de l'autre côté, eh ben, c'est un peu particulier parce qu'à la fois un arbre peut être observé, je sors par 1 à n observateurs vers la droite, et de l'autre côté un observateur peut observer 1 à n arbres. Donc là on est dans une relation 1 à plusieurs ici, ça s'appelle comme ça, et ici dans une relation plusieurs à plusieurs. Vous avez deviné qu'on ne va pas se traiter de la même façon. On a fait 60% de la base de données. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les tables, mais c'est 60%. Le contenu, vous savez, ça va être beaucoup de temps, ça va être 5% de la base de données. On pourra le déléguer à des gens spécialisés qui ne vont pas faire d'erreur et qui ont l'habitude de rentrer les choses, ou à un programme qui va alimenter votre base de données, tout bêtement. Donc du coup, j'y vais. Toutes mes hypothèses sont construites. Je vais m'intéresser au bloc 1 et au bloc 2. Et pour ça, je vais me dire, est-ce que ma liaison, puisque ça s'appelle liaison, surveillée, va se construire de la même façon qu'abritée ? Regardons quelle est la plus simple, peut-être abritée. Donc je vais commencer sûrement par quelque chose de simple, c'est-à-dire le bloc parcelle abritée. Parcelle arbre. Eh bien, vous avez fini le modèle conceptuel des données. Ben, il faut savoir que je peux déjà construire cette base de données dans Access. C'est-à-dire, à partir de ça, je peux construire l'entité arbre. Comme une feuille de calcul, vous verrez, c'est un peu spécial. J'ouvre Access, je réalise la table. On fera ça en séance tranquillement. Okay. Maintenant, je préviens un truc. Les possesseurs de Mac, il y en a beaucoup. Il faut que vous émuliez en Windows, sinon Access ne fonctionnera pas. Ou alors vous utilisez un PC pour apprendre des choses. C'est fait exprès. Et vous savez quoi ? Windows a failli détrôner pour la base de données par les bases de données Apple, qui sont les plus performantes, il faut le savoir. Malheureusement, pour des raisons commerciales, et pour des raisons sûrement politiques avec indéfinies, hein, c'est pas de la politique politicienne, politique économique. Eh bien, c'est encore Microsoft qui a gagné. Mais sachez que, normalement, un Mac est plus puissant qu'un PC, fait des choses encore plus performantes en traitement d'image qu'un PC. Malheureusement, c'est pas très adapté au monde scientifique. C'est plutôt un truc fait pour les artistes, les traitements d'image, le monde, justement, de la vidéo, etc. Dommage, hein. Parce que le noyau Unix qu'il y a derrière, ou Linux, hein, c'est Unix. Il est performant dans un Mac, hein, je ne le conteste pas. Ah, quel monde difficile. Et c'est surtout l'incompatibilité. Pourquoi on n'a pas le droit d'ouvrir une base Access dans le monde Macintosh, alors qu'on peut ouvrir Word, Excel et tout, vous allez comprendre, moi je ne comprends rien. On continue. Donc vous voyez, parcelle, ben, je vais ouvrir une entité, je vais lui dire ça va s'appeler parcelle, je lui mets ID parcelle, ça sera sûrement de type numérique ou texte en fonction de ce que je mets. Je vais lui dire zone, ça sera plutôt du texte, et je vais lui mettre programme, ça sera plutôt du texte, basta, je ferme l'entité. Ensuite je lui dis arbre, ID arbre, on a vu que c'était des numéros, plutôt numéro, on peut le traiter en numéro automatique, essence, plutôt du texte, date de plantation, format date. Basta, c'est fermé, au revoir, maintenant je mets du contenu, comme dans une feuille de calcul. Je bascule de structure à contenu, avec un petit switch, je vous ferai voir, et puis je rentre, comme dans Excel, les données, les unes derrière les autres. Et c'est un peu particulier, parce qu'on a les deux vues, les vues structure dans Access, parcelle, arbre, observateur, et puis la vue contenu, où là, tous les individus vont être visibles, et vous pouvez en avoir 1 million. Mais vous n'aurez pas les 10 millions de relations possibles. Vous voyez, si vous avez des dates différentes, des observateurs différents, avec des arbres concernés, des parcelles, vous allez vite aller à 10 millions de lignes. Là, vous allez avoir simplement vos 700 000 arbres, vos 8 observateurs, et vos 5-6 programmes d'entretien préconisés. Vous économisez énormément de place, vous comprenez, vous êtes dans un système additionnel plutôt qu'un système de multiplication. Vous allez me dire, oui, mais suivi, il y aura bien mes 10 millions. Oui, mais 10 millions gérés par des codes. Donc c'est vachement plus simple et la structure va aller vachement vite à retrouver ça. D'accord. Alors justement, en parlant de rapidité, vous avez vu comment R est rapide. Oui, mais R est rapide parce qu'il fonctionne avec la mémoire vive. De l'ordinateur, pas la mémoire de stock, pas le disque dur. Donc la contrepartie, c'est que si la mémoire vive n'est pas importante, en gigas, et en salle, vous avez vu, vous avez 8, 16 gigas, ça fait pas au moins une centaine de gigas, ce qui commence à être la norme maintenant, dans certains bons calculateurs, bah ça va être limité, et ça va prendre du temps à lire une base de données comme ça. Alors oui, on peut importer dans la même base de données, mais c'est pour son job, d'ailleurs, pour vraiment son job. Lui, son job, c'est faire du calcul sur des jeu de données. Ça là est très performant. Donc on limite par extraction la taille de ce qu'on analyse et il sera très performant. Alors vous avez aussi révolutionnaire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est une dizaine d'années, qui travaille sur le big data. Alors là, il va partager plusieurs ordinateurs, je vous en parlerai. Et je ne sais pas s'il est gratuit ou payé révolutionnaire. Il travaille en gris. Bon, je vous rappelle tout ce que c'est ça. Ça peut vous intéresser, vous, la génération qui va connaître vraiment le boom des data science. Bien. Ah ben on continue, pas. Donc là, on va commencer par le bloc 1. On va se dire, voilà, avec les entités qu'on a mis en place, le programme minimum, hein, vous ne faites pas tous les champs. Une fois que vous êtes dans Access, vous pourrez mettre tous les champs possibles. Là, vous êtes en schéma, vous n'allez pas vous embêter à mettre tous les champs possibles pour arbre. Il en manque, hein, évidemment. Vous allez vous dire, pour rallier l'un à l'autre, par exemple, je travaille sur le bloc 1, entre parcelle et arbre, et dire qu'un arbre est abrité dans une parcelle, il faut bien dire soit que l'arbre est dans une parcelle donnée, soit que la parcelle contient un arbre donné, vous êtes bien d'accord? Donc vous voyez les deux codes qui interviennent là. Et il va falloir faire un choix. Et ce choix dépend des hypothèses. Alors, si je choisis ce choix, c'est-à-dire que je relie, vous voyez c'est précis maintenant, je relie l'ID arbre au code arbre dans la boîte parcelle. Qu'est-ce qui va se passer? Et si je relis, au contraire, l'ID parcelle au code parcelle, regardons ce que ça peut donner. Alors, je ne sais pas si j'ai donné des exemples. Je crois que je les ai donnés après. Et bien là, dans ce cas-là, vous voyez, si on suit l'affaire, eh bien, une parcelle donnée va pouvoir être renseignée ici. C'est-à-dire qu'un arbre, par exemple l'arbre numéro 1, va être contenu dans la parcelle P2. OK? P2, dont les propriétés sont spécifiées grâce à ici, P2, tac, tout ça. Alors pour l'instant, on ne s'occupe pas de code arbre. Alors, l'arbre numéro 8 peut être également dans P2, regardez. Il suffit simplement que je fasse P2 là. Donc là, on honore le cahier des charges qu'une parcelle peut contenir plusieurs arbres. Regardons l'autre solution. Alors je dis que une parcelle donnée contient l'arbre 1. Mais là, je change de parcelle. La parcelle 2, par exemple, contient l'arbre 1. Et si je veux dire que la parcelle 2 contient l'arbre 8 aussi, je suis piégé, puisque j'ai le droit qu'à un seul arbre par dans l'enregistrement. D'accord ? Je suis bien embêté, parce que sinon je vais faire un doublon, et je ne pourrai pas avoir deux fois lundi parcelle 2, puisque c'est interdit, puisque c'est ce qui me suit. Donc ce n'est pas le bon codage. Donc le bon codage, c'était celui-ci, vous voyez ? Et c'est de la logique évidente. C'est-à-dire que je vais définir dans la propriété de l'arbre, dans la boîte arbre, la parcelle qui le contient, et non pas l'arbre dans l'ensemble, le super ensemble que je définis. Comme la parcelle va contenir plusieurs arbres, je ne vais pas spécifier un seul arbre. Donc c'est bien là, au moment où je définis l'arbre, que je dis où il est. Regardez sur le schéma. Je dis où est l'arbre. Plutôt que de dire que cette parcelle contient cet arbre-là, on s'en fout. Il faut qu'elle contienne tout, vous comprenez ? Pigé ? Donc du coup, on a trouvé l'astuce. On sait que c'est cette liaison qui va se faire. Et abrité, regardez, hein, il ne va pas bouger, hein, sauf s'il y a du vent. Mais ça, on le mettra comme mort, ou comme échoué, ou comme à réparer. Donc là, ça ne va pas bouger. Hein. Donc ça veut dire que c'est non contextuel. Si c'est non contextuel, regardez bien, eh bien, je n'ai plus besoin du nom de la relation. C'est implicite. Donc, dans Access, je n'ai pas besoin de ce code aussi, je vais me retrouver avec cette liaison-là. Et je la symbolise comment ? Je mets un 1 à gauche et un N à droite. Ça veut dire que c'est une relation 1 à plusieurs. C'est-à-dire qu'une parcelle peut contenir N à. Mais c'est à l'envers du code des cardinalités de mes fameuses... modèle conceptuel des données. Bon, c'est un entraînement, c'est juste pour vous dire que quand vous allez tracer votre entité access, eh ben ça va se tracer comme ça, ça va avoir cette... on va voir le schéma access que ça vous génère. Donc là, voilà, c'est plié, terminé. Alors, regardons déjà le contenu, vous voyez bien que ça nous donne quoi ? Ça nous donne qu'ici, eh bien, j'ai bien le numéro de la parcelle, la zone qui la contient, le programme, le responsable, pourquoi pas. Et là, vous voyez l'arbre. 1 est dans la parcelle 133. Et ça n'empêche pas de dire que la même parcelle 133 contient l'arbre 6 qui est un chêne. De même, vous voyez que j'ai deux boulots dans la parcelle 95. Mais ce n'est pas les mêmes. Tout va, tout marche bien. Donc il y a des charges, j'ai honoré. Un petit peu de logique. Vous voyez, il ne fallait pas tomber dans le piège de mettre le code parcelle dans le code arbre dans parcelle, mais plutôt un code parcelle dans arbre. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liaison 1 à plusieurs, comme toutes les liaisons, se fait à l'aide d'une clé primaire. Ça s'appelle une clé primaire, celle qui rend compte de l'unicité de l'information dans parcelle, qui est reliée à une clé étrangère. Étrangère pourquoi ? Parce que parcelle, c'est étranger à arbre. D'accord ? Ça ne représente pas un arbre. Voilà, c'est un peu comme moi. Si je donne mon adresse, ça ne correspond pas à mon identité se déplace avec moi, mais il faut bien que j'ai une adresse quelque part pour qu'on puisse me suivre, m'envoyer du courrier, je ne sais quoi, payer mes impôts, etc. Bien, alors ça règle la chose, c'est une relation à un plusieurs. D'ailleurs, ça s'appelle une relation simple, dans le modèle entité-relation. Bon sang, on a fait du progrès, là, la base se dessine, vous pouvez la faire dans Access direct comme ça, hein. On continue. Là, entre ordre observateur, surveiller, c'est contextuel. Puisque je surveille à une certaine date, je surveille avec un observateur, je surveille un arbre grâce à un couple observateur-arbre, c'est-à-dire qu'un observateur observe tel arbre et un arbre est observé par tel observateur. Pas forcément les mêmes d'ailleurs, hein, je l'ai dit. Alors la première chose, c'est que le contexte signale que j'ai besoin d'un double code pour faire fonctionner la chose. Un code observateur et un code arbre. Pourquoi ? Ben parce que j'ai émis l'hypothèse qu'un arbre peut être observé par plusieurs observateurs, le même arbre, pas forcément aux mêmes dates, tiens justement la date, il va falloir l'utiliser, et un observateur peut observer plusieurs arbres. Ah, on continue. Donc, ça correspond bien à ce que j'ai fait, je commence à relier les clés primaires au code étranger, du coup cette ensemble, là, c'est plus une liaison. On voit bien que ça ne va pas être une liaison simple, ça va prendre une structure particulière. On va voir très vite quelle structure. Et donc, je peux tracer des liaisons, une sorte de clé étrangère qui va être le code observateur et la clé primaire qui va être le nom de l'observateur, je peux prendre son nom, hein, ça suffit, je n'ai pas besoin d'un ID particulier. Et je pourrais appeler Durand 1 et Durand 2 s'il y en avait deux. Ça serait bien le diable s'il y avait deux autres qui portent le même nom. Bon, et du coup, on n'est pas comme dans le cas d'un amphi où plusieurs étudiants peuvent avoir le même nom, voire même aussi le même prénom. Hein. Ils peuvent être nés la même date. C'est particulier, ça faisait montrer ça, avec la loi de Poisson. Donc du coup, je me retrouve avec cette chose-là, et vous voyez bien que ID, c'est un contenant. Ça contient tous les arbres possibles. Par contre, ID parcelle. Code parcelle, je vais peut-être rendre compte d'une partie de la situation. Peut-être qu'il y a des parcelles qui ne contiennent pas d'arbres. Donc le code parcelle ne contiendra qu'une partie des informations de ID. Voilà pourquoi je les identifie de façon différente. Dans tous les cours de base de données à deux balles, vous trouverez ID parcelle lié à ID parcelle. Il y a de quoi devenir dingue. Et c'est ça qui fait la confusion dans le monde informatique. Ils ne savent plus dans quel monde ils sont. Or, le monde réel, c'est quoi? C'est bien séparer les contenants. Si je devais échanger le contenu d'un verre de lait avec un verre d'eau, il me faut un verre intermédiaire. Vous comprenez? Je verse le verre de lait dans le verre intermédiaire. Admettons qu'il ne reste plus de traces, hein, d'accord? Ok. Je verse le verre d'eau dans le verre vidé et je verse le verre de lait dans le verre vidé d'eau. Et voilà, j'ai fait l'échange. On voit bien que ce n'est pas les mêmes contenants. Pourtant, c'est les mêmes contenus. Donc, c'est un monde d'échange, d'accord? Voilà pourquoi je suis très rigoureux et que je veux que les identifiants soient différents du nom des codes qui sont les clés étrangères. Je continue. J'avais rajouté la date. Je vais faire des mesures, donc du coup, il va y avoir la hauteur de l'arbre à cette date-là. Pas la hauteur de l'arbre comme une hauteur figée, il va bouger hein, l'arbre. Hein. Je vais mettre la circonférence, la valeur, et tout, etc. Mais je vais peut-être pas m'intéresser à tous les arbres. C'est là que je change mon plan. Vous voyez la différence? J'ai tout dépassé avec tous les arbres, mais j'ai pas dit que je suivais tous les arbres. Donc c'est vraiment contextuel. Et là, c'est le suivi à une date donnée. On pourrait faire un autre schéma pour en suivre à une autre date. Vous pigez ? Donc en fait, tout cet ensemble est vraiment contextuel et ça me permet d'être très souple et d'envisager toutes les situations. Alors après, je peux me dire, mais suivi, c'est quoi ? Ben, j'ai besoin d'êtres humains et j'ai besoin de drones, peut-être pour étudier ça, et puis d'objets connectés. Et tout ça, ça va me renseigner sur les éléments. Par exemple, le drone va peut-être faire les mesures de hauteur beaucoup plus facilement que sur plusieurs arbres, grâce à une intelligence artificielle, que de mesurer ça avec un laser, arbre par un humain qui se déplace, ça coûtera plus cher en plus, et ça sera peut-être moins précis. Et le drone, il pourra faire ça plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois par mois, ou plusieurs fois par semaine. Même chose pour la circonférence, l'état, il déduira, bah, il pourra faire une reconnaissance d'image. Qui va aller très vite. D'ailleurs, il y a des étudiants qui m'ont proposé sa reconnaissance d'image pour voir l'état des berges, la biodiversité, d'accord? Si on sait reconnaître chat et chien, on peut reconnaître aussi n'importe quel animal qui va défiler grâce à des pièges, des captures photo, par exemple. Okay? Bon, ben, vous avez compris qu'il y a deux types de relations, une relation conceptuelle qui sont contextuelles et les liaisons aux relations qui sont non contextuelles. Et ça part toujours d'un même principe, c'est qu'il faut que je relie grâce à des codes et à des ID, toutes ces tables. Ah ben là, c'est très facile. Vous venez de faire naître une autre table. Donc, c'est une table intermédiaire de liaison. Je l'appelle surveillée. Et je peux l'appeler suivi. Je change juste son nom. Et c'est plié. Et fini votre base de données. Vous avez fait 75% du travail. Le reste, c'est du peaufinage sur Access. En fait, voilà, c'est ça que vous donnez à un informaticien. C'est ça qu'il est capable. Il n'est pas dans la chaîne, il ne sait pas comment c'est géré, il ne sait pas ce que c'est que l'écologie, la biologie. Là, je fais un truc simple, vous avez des choses beaucoup plus compliquées, vous êtes d'accord avec moi. Donc, il ne peut pas vous l'inventer. Réfléchissez. Donc, vous êtes absolument indispensable. Voilà pourquoi je me bats pour que les biologistes aient la main mise sur leurs données. Après, alors que vous la réalisez vous-même, la base, que vous la fassiez faire par un informaticien, parce que ça, il s'y connaît. Hein. Il pourra faire un truc en PHP, MySQL, vous savez quoi faire. Hein. Là, ça veut dire que vous avez une base sur Internet qui est interactive, qui est modifiable, accessible, avec des codes d'accès, des gens qui pourront y mettre des nouvelles données dans telle table et dans telle autre. Vous voyez bien que
Ça, c'est moins sensible que ça, déjà. Et encore que ça, parce que là, si vous avez des données fausses, c'est foutu. Donc là, vous avez une priorité 1 pour les gens qui auront le droit de changer le suivi et amender les données. C'est des gens de confiance, vous avez. Et puis toute personne qui voudrait rajouter les parcelles d'études en attendant qu'elles soient suivies, ben, vous l'ajoutez très facilement, vous les mettez de côté ou vous attendez de les vérifier. Et là, elles sont en priorité 3 ou 4 qui sont beaucoup plus inférieures. Elles ont le droit de toucher à ça et à ça pour mettre d'autres arbres dans d'autres parcelles. Ça ne mange pas de pain. Hop. Donc, vous voyez, vous gérez par des priorités, vous demandez à votre informaticien de faire ça, plus ça, ça et ça, et hop, c'est fini. Je vais vous apprendre à la faire en access. Je vous mettrai sur les rails, on ne va pas passer notre vie là-dessus. Hein. Puis après, vous êtes bon. Voilà, c'est tout. C'est tout bête. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme base de données? Alors, vous voyez, j'ai mis CodeArbre qui est en liaison avec IDEA, c'est logique. Code observateur avec monde observateur, vous êtes d'accord avec moi que c'est complètement différent de ce qu'on avait fait en Access, d'accord, en XL. Bien, alors maintenant que tout cela est dit, ben voilà ce que ça donne en Access. Vous voyez, j'ai rajouté des tables, je me suis servi de mon schéma, je vais pas refaire un schéma pour rajouter des tables, je suis capable d'en rajouter à la main. Donc j'ai suivi GR, donc ça y est, j'aurais un type, c'est une liste déroulante que je pourrais utiliser pour ne pas avoir rentré toujours les mêmes choses et faire des erreurs. Imaginez que j'écrive être avec un accent ou sans accent, avec un H ou sans H, là, pof, toute la liste est prévue. Et je peux même bloquer à je n'ai pas le droit de rentrer des choses différentes de la liste. C'est deux étapes. La liste qui nous aide et je n'ai pas le droit de rentrer des choses différentes de la liste. C'est ce qu'on appelle les règles de validité. On verra ça dans Access. Parcelle, vous voyez, arbre, j'ai rajouté des choses, vous voyez, propriétaire de la parcelle. J'ai rajouté aussi le numéro de la collection, l'écologie associée, le programme. Dans arbre, j'ai mis ce qu'il y avait déjà. Dans suivi, rapport. Je peux mettre un lien vers un rapport photographique et détaillé, un PDF, vous rendez compte, la base de données, tout ça. Comme ça, la base de données va utiliser tout un système de gestion de fichiers pour pouvoir gérer ces informations. Alors, je continue. J'ai mis en plus entretien. Qui n'a rien à voir avec suivi, c'est-à-dire le type d'entretien, je vous ai parlé, en fonction du suivi de l'arbre, on dit oh là là, il est grand temps que cet arbre soit entretenu ou pas. Si entretenu, quel code d'entretien je vais prendre rien, ou, parce que rien doit exister, hein, ça permet de ne pas laisser des champs vides, hein, ou pas pour l'instant, ou on verra plus tard, et puis s'il y a un code d'entretien, je vous l'ai dit, élagage, c'est le plus simple. Donc j'ai l'ID de l'action, par exemple, élagage. Je mets la méthode, l'équipe qui va faire, la procédure, les produits, les moyens techniques. Je pourrais très bien utiliser un cheval avec des charrues aussi pour entretenir le sol autour. Et puis je vois bien qu'ici, il va y avoir un effet de la micro-hétérogénéité des sols, ou macro, ça dépend de la zone. Donc il faut le rentrer quelque part, ça. Et l'histoire est sans fin. Et c'est là que je commence à alimenter ma base vers des nouvelles tables, des nouvelles relations. Imaginez que vous fassiez ça avec Excel, c'est impossible. Et là, ma base peut être interrogée dans Python, en une ligne, dans R, en une ligne, ou deux. Et puis, pof, pof, j'analyse un truc très complexe. Elle a l'air de rien, cette base. Si je la vends à des spécialistes, ils me l'achètent 5000 balles. Elle a rien, cette base. Je dis, tiens, je vais faire autre chose que la gestion de pollution des sols, je vais refaire un truc. Donc, encore plus couillon, c'est la gestion d'arbres. Ben, c'est pas si couillon que ça, vous voyez. C'est pas si possible que ça, parce que là, on débouche sur la santé de l'arbre, l'écologie. Et si vous êtes projectif, hein, vous pouvez, ça se dit en français, bon, on va dire ça se dit, hein, vous pouvez imaginer le climat en 2050 pour ces arbres. Donc, quelles essences vous allez mettre dans les parcelles pour pouvoir avoir de l'ombre dans la ville de Paris ou dans le bois de Boulogne ou je ne sais quoi. Parce que là, vous êtes dans une génération qui va subir les 40 degrés à Paris. Et à la fin de votre vie, 50 degrés. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des écologues. Hein. C'est publié. Hein. C'est des gens qui travaillent au CNRS, c'est pas des journalistes. Hein. Voilà. Ça vous va? Après, c'est de la technique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous réfléchissiez dans vos projets à ce que vous allez. Je vous demande pas d'aller tout de suite là-dessus, mais. D'aller jusque-là dans vos projets. C'est-à-dire, dans une première étape. Ça, c'est déjà pas mal. Donc on va en discuter ensemble. Après. après le jeu, parce qu'il y a un jeu. Et puis, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment inspiré, ça. Alors, j'ai pas dit que les quatre personnes d'une team allaient faire ça. Pardon, excusez-moi. Où est-ce qu'elle est, mon truc ? Voilà. J'ai pas dit que les quatre personnes d'une team allaient faire le tableau des phrases. Au moins une qui s'intéressera à la base de données. Vous avez compris comment va marcher les projets. Chacun aura son talent particulier. Chacun aura son truc. Je ne demande pas à tout le monde d'être calé en Python, calé en base de données, calé en analyse statistique. Chacun aura son skill, d'accord ? Son skill préféré. Par contre, je vous mets sur des bases communes. C'est pour ça que j'arrête le cours des bases de données là-dessus. On va parler de projet. Et pour votre base de données, eh bien, ça peut être le déclencheur du projet, les mots-clés. Juste les mots-clés de votre projet. Et ça peut être l'objet d'un défi. Réfléchissez-y. Je vous demanderai peut-être de me lancer les mots-clés et voir le tableau des phrases. Je ne vous demande pas autant de phrases. Hein. Deux ou trois phrases, ça me suffit. Ça me suffit amplement. Et bien sûr, sur Internet, vous trouverez tous ces fichiers, toute l'explication.